RCF.
Le frère Cyril Jalabert a rejoint le couvent des Dominicains de Marseille en tant que prieur, quelques semaines seulement avant la venue du pape. Historien spécialiste du Proche-Orient médiéval, une région où il a séjourné pendant quelques années, il revient pour nous aujourd'hui sur son parcours en Terre Sainte, ses missions à Marseille et sa vocation qu'il a eue à 14 ans. Rencontre avec le pétillant frère Cyril, aujourd'hui dans Témoins. Bonjour frère Cyril Jalabert.
Bonjour.
Alors vous êtes le nouveau prieur de la communauté des Dominicains de Marseille. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Alors avant de parler de plus particulièrement de votre parcours, de la communauté à Marseille, peut-être un mot sur la fonction de prieur. En quoi consiste-t-elle ?
Alors la fonction de prieur, les gens croient toujours que c'est à cause du mot que le prieur c'est celui qui dirige la prière, pas du tout. Ça vient du latin, ça veut dire prior, le premier de deux. Parce que dans toute communauté dominicaine, il y a un prieur et un sous-prieur qui est évidemment le deuxième de deux.
Vous priez plus que les autres ?
Non, c'est pas du tout ce que ça veut dire. C'est celui qui a la responsabilité, simplement, de la vie de la communauté. Et comme on essaye de suivre l'évangile, eh bien, il y a deux versets de l'évangile qu'on suit absolument au pied de la lettre quand il s'agit de prieurs. Et voici ce que saint Marc en dit. « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands font sentir leur pouvoir. » Il ne doit pas en être ainsi parmi vous, au contraire, celui qui voudra devenir grand pour parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Et donc si on est le prieur, le premier, eh bien on doit être l'esclave de tous. Donc c'est un passage de l'évangile qu'on suit au pied de la lettre, on élit des prieurs pour qu'ils soient nos esclaves, voilà, et donc on doit travailler pour les frères. C'est ça la fonction du prieur, de veiller sur la vie commune des frères et sur les frères eux-mêmes, de telle façon que eux puissent travailler au service du peuple de Dieu qui nous entoure.
Oui, on a un peu parfois dans l'imaginaire collectif l'impression que vous êtes au-dessus, mais pas à vous, vous nous dites bien que non.
Ah, chez les Dominicains, en tout cas, c'est pas du tout le cas. Je me souviens un jour, j'étais dans un séminaire étranger. Et quand ils ont su que j'étais prieur, ils m'ont dit « Ah, et alors tu vas avoir une mitre, une croix pectorale, etc. » Je leur ai dit « Non, ça c'est chez les grands pères abbés bénédictins, mais chez nous pas du tout. On est, comme on dit, primus inter pares, c'est-à-dire le premier au milieu de ses pères, au même niveau que les autres. On est un frère parmi les autres qui est serviteur des autres pour que les autres puissent être serviteurs du peuple de Dieu. »
Et donc serviteur aujourd'hui de la communauté de Marseille. Alors comment s'est passée votre arrivée ? Vous y êtes depuis quelques mois déjà ?
Alors je suis arrivé le 5 juillet, ça s'est passé assez simple. En fait j'étais dans un couvent à l'étranger, donc quand j'ai été élu c'était en avril. Et j'ai dit au frère, j'ai quand même besoin de 2 mois pour... c'était imprévu pour moi. Donc,
Vous êtes arrivé la bonne année en plus, 2023, avec la venue du pape.
Juste avant l'arrivée du pape. En fait, alors c'était très sympa parce que on voyait, le pape faisait son travail, c'est-à-dire d'abord rassembler le peuple de Dieu, et on voyait le peuple de Dieu rassemblé. En revanche, quand il s'agissait de monter un projet, un programme, ça, moi qui arrivais, qui devais tout découvrir, la réponse systématique c'était rendez-vous en octobre, là on n'a pas le temps. Donc oui, c'était le bon moment parce qu'on voyait tout le peuple de Marseille uni dans l'église, en tout cas ceux qui ont été attirés par la visite du pape, et je crois que c'est aller au-delà du simple monde catholique ou même chrétien. En revanche, pour tout ce qui était mon travail, j'allais dire administratif, entrer dans le diocèse, etc., c'était un petit peu plus compliqué parce que les gens étaient pris par autre chose qui était la visite du pape. Mais au final, ça s'est bien passé parce que les frères m'attendaient, donc les choses étaient déjà prêtes. Ils savaient quand j'allais arriver, donc les choses se sont faites assez naturellement. Voilà.
Et Marseille ?
Alors, Marseille est une ville que j'ai connue à deux titres différents. D'abord, alors je sais que ça ne se dit pas dans le milieu marseillais pur fruit, mais il se trouve que pendant un an, au début de ma carrière de travailleur, avant d'être dominicain, j'avais travaillé à l'université d'Aix-en-Provence. Et donc, j'avais croisé Marseille parce que j'y étais passé à l'occasion.
Vous donniez des cours ?
Oui, j'étais prof j'étais ce qu'on appelait attaché temporaire d'enseignement et de recherche à la fac d'Aix, et j'étais au département d'arabe. On va voir pourquoi tout à l'heure, j'imagine.
Oui.
Donc en fait, j'avais gardé la réalité que dès que je mettais le pied sur le quai de la gare de Marseille en arrivant arrivant d'ailleurs pour repartir sur Aix, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le TGV, donc il n'y avait pas le TGV qui s'arrêtait à la gare avant, etc. Eh bien, quand j'arrivais, je mettais le pied sur la gare de Marseille, je me mettais à penser en arabe. Et donc, c'était mon premier contact avec Marseille. Mais c'était lié à mon poste à Aix-en-Provence. Et l'autre chose, c'est que, comme tous les frères de la province dominicaine de Toulouse, j'ai fait mon noviciat au couvent de Marseille. Et donc, j'ai passé un an à Marseille. Alors, le noviciat, c'est pas le moment où on va faire des tours en ville, rencontrer plein de gens, etc. C'est un moment de découverte de la vie dominicaine. Donc, c'est plutôt intérieur au couvent. Mais quand même, on est dans un contexte, on le voit, comment les gens sont, etc. Donc, j'ai retrouvé une ville qu'en fait, je connaissais très peu, mais un peu déjà quand même.
Et quelles sont les missions de la communauté des Dominicains ici à Marseille, les particularités, ce que vous faites au quotidien ?
Il y a plusieurs choses. Alors, il y a deux choses entre les missions et ce qu'on fait au quotidien. C'est pas exactement la même chose. Parce que, au quotidien, une communauté dominicaine, c'est d'abord un ensemble de frères qui vivent deux choses à la fois. La première qui est la prière, comme on dit, au cœur, c'est-à-dire dans le cœur de l'Église. C'est-à-dire ensemble, la prière commune. À haute voix et publique, c'est notre dimension de chanoine en fait, parce que l'ordre dominicain a été fondé par quelqu'un qui était un chanoine, et l'une des fonctions des chanoines, c'est de tenir l'office divin, la prière au nom du peuple de Dieu, en se tenant devant Dieu. Donc c'est une des premières choses qu'on fait, ça rythme notre journée, matin, midi et soir.
Mais comme dans toutes les communautés dominicaines de France finalement, enfin,
comme dans
monde
toutes
même.
Les communautés dominicaines de France, comme dans toutes les communautés religieuses, parce que les bénédictins font exactement la même chose, les carmes et tout le monde. On le fait avec chacun notre style particulier. Donc les dominicains, on est en ville, contrairement aux bénédictins, et au milieu de la ville, on va dire l'office divin ensemble, de façon un peu publique et un peu solennelle chez nous.
Mais, on reviendra sur le charisme des dominicains, mais alors du coup, plus sur vos missions ici à Marseille.
Alors la deuxième chose, effectivement, c'est que les frères dominicains, on dit souvent, leur cloître, c'est le monde. C'est-à-dire qu'on a pour vocation d'être ouvert et d'aller dans la ville ou dans les lieux où on se trouve. Et chez nous, ici à Marseille, il y a plusieurs pôles qui sont un peu nos dimensions apostoliques qui correspondent d'une part à ce que nous sommes en tant que dominicains et d'autre part aux attentes locales, c'est-à-dire du peuple de Dieu à Marseille. Alors on a un gros pôle qui est autour des jeunes, ça va, des groupes de jeunes, que ce soit de la formation, de la prière, on a des aumôniers en lycée et en collège, etc. Donc il y a tout un pôle autour des jeunes et même des jeunes pros. On a un deuxième pôle qui est la formation, la liturgie. On commence d'abord par former nos propres novices, puisqu'on est le noviciat de la province dominicaine de Toulouse. Et donc déjà, il y a toute une formation d'une forme de jeunesse qui sont les jeunes qui pensent, qui ont fait le pas déjà d'entrer dans la vie dominicaine et de la découvrir.
Ils sont nombreux à Marseille cette année ?
Alors cette année, il y a 6 novices, dont 5 pour notre province, et un qui vient de Slovaquie et qui... En fait, il est tout seul, donc on lui a dit « tu vas pas faire un noviciat tout seul, donc tu viens faire le noviciat en France ». Et comme il est plutôt doué, il a appris le français en quelques mois et il se débrouille bien. Voilà. Donc il y a 5 novices pour la province de Toulouse. Et sinon, dans les attentes des diocèses autour de nous, alors on a un certain nombre, du point de vue de la formation et de l'enseignement, on a un certain nombre de frères qui donnent des cours dans les séminaires de la région, ou bien ici, au centre Mistral, etc. Et on a le désir de développer notre église comme un lieu où on présente la foi. Et on voudrait arriver à l'ouvrir plus, on voudrait arriver à en faire un lieu chaleureux. Alors on espère que humainement il est chaleureux, mais du point de vue de l'architecture, c'est un petit peu difficile, parce que je ne sais pas si ceux qui connaissent notre église verront tout de suite à quoi je pense. Ça fait, comme la plupart des églises de Marseille, 150 ans qu'elle n'a pas été restaurée. Et ma foi, elle est un peu crasseuse, elle a subi des aventures au cours des années 60-70, donc il y a des traînées de plâtre blanc au milieu de peintures anciennes, etc. Donc elle nécessite une restauration.
Donc chaleureux pas seulement sur le fond, mais aussi sur la forme.
Voilà, c'est le bâtiment. On espère que le bâtiment soit chaleureux. Alors l'une des demandes des gens qui nous fréquentent, c'est on est des Marseillais, on veut une église qui est plus chaude du point de vue de la température en hiver. Moi qui suis savoyard, je dis mettez un pull en plus, mais manifestement pour les Marseillais, c'est pas vraiment ça. Donc il y a tout un tas d'installations qui sont prévues et de restaurations qui sont prévues, et c'est pour nous, effectivement. effectivement un gros défi. Mais donc, du point de vue apostolique, puisque voilà, c'est ça la question, c'était là la question, on aimerait pouvoir en faire un lieu qui est encore plus un lieu qui appelle vers la foi. À ce niveau-là, j'ai une anecdote assez amusante. C'était au moment de la Coupe du Monde de rugby. Il y avait un match, alors il y avait des Irlandais contre des Écossais contre je sais plus quoi, et c'était l'office des complices. Il y avait un peu de monde parce que il y avait eu une activité ce jour-là. Donc je me souviens, on était assez nombreux dans l'église, il y avait pas mal de frères, etc. Et rentrent comme ça des supporters qui sont avec leur tenue nationale, etc. Ils étaient en kilt, évidemment, parce que c'était des Écossais. Et ils ont été bluffés de voir cette église où il y avait pas mal de gens alors qu'il était 20h30, etc. Ils ont beaucoup apprécié. Voilà, on aimerait développer cette dimension-là, de faire de l'Église un lieu comme présentation de la foi. Alors, on y travaille déjà. Le simple fait qu'il y ait l'Office divin qui y existe, une chose. On essaye de l'ouvrir un peu plus, mais il nous faudrait plus de bénévoles. Et on essaye donc d'en faire un lieu qui, esthétiquement, est mieux mis en valeur. Parce que notre Église est très belle. Enfin, elle est, pour une église 19e siècle, elle est belle, elle est assez rare. Celui qui l'a fait, c'est celui qui a fait Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Elle a un style très particulier qui attire l'œil des Marseillais. En revanche, elle est pour l'instant pas très bien mise en valeur.
Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours plus personnel, parce qu'avant d'être à Marseille, vous avez passé 2 ans à Jérusalem. Alors, que retenez-vous de cette expérience en Terre Sainte, et en quoi cette expérience peut vous servir pour votre mission à Marseille?
Alors, la question est vaste, parce qu'il y en a 3 dans la question.
C'est ça. On va commencer peut-être l'expérience alors en Terre Sainte.
Voilà. Ben, avant de mon expérience en Terre Sainte, qu'est-ce qui m'y a amené? Parce que j'ai pas découvert l'Orient par la Terre Sainte, comme j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, dans ma formation, avant d'être dominicain, j'étais un historien du Proche-Orient. Je suis un historien médiéviste du Proche-Orient et du Proche-Orient arabe, parce que les gens me disent « Ah oui, médiéviste du Proche-Orient, les croisades, tout ça ». Je dis « Oui, mais très périphérique, de façon très périphérique pour moi, parce que ma spécialité, c'était les sources arabes ». Et ce qui avait justifié le fait que je travaille à Aix-en-Provence, dans le département d'arabe.
Ce que vous nous disiez tout à l'heure,
voilà,
au début de
l'émission. Finalement, j'ai choisi de prendre une autre voie qui m'a mené vers la vie religieuse, mais ayant une formation qui est une formation d'arabisant, en fait, c'est à ce titre-là que je me suis retrouvé à Jérusalem, parce que à la fois, j'étais capable de travailler sur l'histoire du Proche-Orient, parce que c'était un objet d'étude universitaire pour moi, et donc les frères qui travaillent à l'école biblique étaient intéressés d'avoir quelqu'un qui regarde vers le grand Proche-Orient. Et de l'autre côté, étant arabisant, j'étais capable de travailler avec la population locale, et en tout cas avec les chrétiens locaux. Avec les chrétiens d'Orient. Alors à Jérusalem, les chrétiens d'Orient, c'est pas seulement, je sais pas, les maronites ou les grecs orthodoxes, les latins, c'est-à-dire les catholiques romains, ils sont aussi arabes et ils sont aussi chrétiens d'Orient. Donc voilà, c'est pas les chrétiens d'Orient, c'est pas seulement les églises orientales. Donc j'avais la possibilité de faire les deux. Et dans une vie dominicaine, il y a une dimension études, recherche, etc., ce qui était le côté école biblique. Mais il y a aussi, comme on le disait, une dimension ouverture sur la cité. Discussion avec les gens, et comme je faisais partie des gens qui étaient arabisants, eh bien j'avais la possibilité de le faire. Donc mon expérience était un mélange des deux, c'est-à-dire à la fois un travail universitaire fort intéressant. Alors je travaillais avec des archéologues principalement, moi j'étais historien, hein, donc je travaillais avec des archéologues, et les archéologues en question, parce que c'est la façon de travailler des archéologues, avaient besoin de vis-à-vis, de gens avec qui discuter pour arriver à formuler leurs pensées, à reconstruire. Parce que vous trouvez des bouts de pierre, des bouts de métal, de la terre accumulée, et vous devez transformer ça en une compréhension du lieu où c'était. Donc il y a besoin de discuter, de voir, etc. Et donc moi, j'étais un vis-à-vis idéal, parce que en tant qu'historien, j'étais capable de discuter. J'avais utilisé des travaux d'archéologues, donc je comprends leur vocabulaire. Et donc on discutait justement sur les questions archéologiques. Alors on a plutôt discuté sur les périodes tardives du point de vue de l'histoire biblique, c'est-à-dire entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et puis le 5e siècle après Jésus-Christ. Mais il y avait toute cette dimension-là que je travaillais et qui était passionnante. Et de l'autre côté, j'étais investi dans l'église locale. Notamment, j'allais travailler un jour par semaine au séminaire où je faisais un peu d'accompagnement. Je faisais le répétiteur de français aussi. Et puis, j'entendais les confessions de ceux qui voulaient, etc. Donc, mon expérience, c'était ça. Et mon expérience, ça a été, effectivement, j'ai vécu en tout avant l'ordre et pendant l'ordre, j'ai vécu 7 ans au Proche-Orient. Et donc cette expérience orientale m'a amené à voir sur Marseille un regard amusant. Alors je dis souvent intéressé et bienveillant, je veux dire. Je dis souvent, on me dit alors comment vous sentez Marseille, parce que la question un peu, et je réponds souvent, ben Marseille c'est comme Gaza, c'est une ville qui est extrêmement attachante. Alors ça fait bien 40 ans que j'ai pas mis le pied à Gaza, mais il reste que tous ceux que j'ai rencontrés qui sont allés depuis ont eu la même impression que moi. Et à l'époque, c'est-à-dire, on est plongé dans une cité, et puis c'est une cité qui est tout à fait intéressante. Les gens là-bas très souvent sont très attachants. Alors, évidemment, quand on regarde les médias, la télévision,
oui, j'allais vous dire la violence aussi.
Voilà, il y a énormément de violence. Et en même temps, si vous entrez dans la société elle-même, vous êtes dans un autre monde. Pour vous donner un exemple, moi, on m'avait demandé envoyé à Gaza pour faire passer un examen de français. Alors j'avais dit d'accord, je fais passer l'examen pendant 24 heures, je suis là-bas, il y a un centre culturel français à Gaza depuis 50 ans au moins. Et je fais passer l'examen, mais en échange, je demande à ce qu'il y ait des jeunes, par exemple des étudiants, qui m'emmènent visiter la ville. Et le lendemain, je suis parti, j'ai traversé Gaza, j'ai fait les camps de réfugiés, le centre-ville, le vieux Gaza, etc. avec des étudiants. Et visiter un pays avec les habitants qui y sont, ça a toujours un charme extraordinaire. Donc, en tout cas, c'est mon expérience à moi. Et donc, bref, il y a des villes comme ça où, effectivement, la population est très attachante. Malgré, bon, à Gaza actuellement, évidemment, si je vous dis Gaza aujourd'hui, vous pensez guerre, violence, destruction, immeubles effondrés, morts, enlèvements, otages, ce qui est vrai. Et c'est une réalité, c'est une des réalités du pays. Et en dessous, vous avez aussi une réalité de gens qui essayent de vivre et qui vivent comme ils peuvent. Justement, la situation politique était, il y a 40 ans, déjà très difficile, et économique aussi. Eh bien, les gens, ils sont obligés de vivre dans la débrouille sur le système D. Et du coup, ça donne une espèce de lien amical qui rend les gens extrêmement attachants.
Je vous propose qu'on écoute maintenant les voix dominicaines avec le chant Talis If Ye Love, et on va revenir juste après avoir écouté ce chant sur le charisme des dominicains. C'était les voix dominicaines avec le chant Talis If Ye Love Me. Nous sommes sur RCF avec notre invité, le prieur de la communauté dominicaine à Marseille, le père Cyril Jalabert. Alors on vient d'écouter les voix dominicaines. Justement, pourquoi vous avez choisi ce chant plus particulièrement ?
Ouais, d'abord parce que c'est les voix dominicaines et qu'elles sont... l'enregistrement qui a été fait là est organisé notamment par des frères de Marseille. Donc j'étais content qu'on entende des choses organisées par mes frères de mon couvent, même s'ils l'ont organisé à un moment où moi j'étais pas ici puisque j'étais ailleurs. Après avoir un chant polyphonique qui chante Dieu et l'amour pour Dieu, eh bien ça correspond à ce qu'est la communauté dominicaine de Marseille aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a toute une dimension chez nous du chant polyphonique. Et voilà.
J'allais vous demander justement quelle est la place de la musique pour un dominicain.
Ça dépend du dominicain. Il y a des dominicains qui sont extrêmement musiciens, qui vont être très sensibles au chant, etc. Et c'est ceux-là qui vont s'investir beaucoup dans le chant choral. La liturgie que nous chantons a été composée par un frère dominicain. Donc, en polyphonie, etc. Les gens, les vrais grands musiciens disent souvent « oui, c'est un peu de la musique facile ». On dit bah oui, c'est, ça tombe bien parce que c'est pas de la musique savante, c'est une musique effectivement assez facile à chanter, pas très compliquée, un peu d'entraînement et si vous êtes à peu près, vous sentez à peu près la musique, vous arrivez à le chanter. Alors c'est pas effectivement, c'est pas Mozart ou Jean-Sébastien Bach, ben bien qu'on chante pas mal de chorale de Bach en fait.
Oui, j'allais vous dire, c'est quand même.
mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas une musique très difficile, mais ça tombe bien parce que le but c'est d'avoir la possibilité de prier en chantant, ce qui entretient en fait notre joie de nous tourner vers Dieu. Et donc la place de la musique, c'est ça. Après, parmi les dominicains, vous avez des gens qui sont des grands artistes, des grands musiciens, et ceux-là vont se consacrer de façon plus particulière à la vie musicale. Mais ce qui va être le...
C'est pas un passage obligé pour un dominicain ?
Non, d'abord, il y a des dominicains qui savent pas chanter. Donc voilà. Au noviciat, par exemple, on va quand même essayer de vous mettre au chant pour que vous soyez capable, quand vous vous retrouverez une fois devenu professeur solennel et prêtre dans un couvent où il y a 10 frères, que vous soyez capable de tenir la liturgie avec ces 10 frères.
Alors, on peut revenir maintenant sur le charisme des dominicains. Alors, on dit souvent, de manière peut-être un peu rapide, je sais pas, vous allez me dire que vous êtes des intellos. Vous êtes d'accord avec cette étiquette ?
Ben oui et non. En fait, oui. Voilà. et puis, il y a des dominicains qui sont pas des intellos. Alors, les intellos, c'est. Il y a quand on était frais étudiant. Donc avant d'être ordonné prêtre, quand on est en formation, chez nous, déjà, la formation, elle dure assez longtemps. Vous avez 1 an de noviciat. 2 ans de philosophie, 4 ans de théologie, vous êtes ordonné prêtre, et dans la province de Toulouse, on vous fait quasi systématiquement faire encore 2 années supplémentaires. Donc vous avez 4, 6, 7, 8, 9 ans de formation. Donc si vous n'êtes pas un télo, vous risquez de craquer avant. Hein. Voilà. Mais...
C'est un ordre de prêcheur en fait, c'est pour prêcher que vous êtes formé comme ça ?
Alors en fait, l'un des éléments essentiels de l'ordre des prêcheurs, c'est d'être capable effectivement de présenter la doctrine au peuple de Dieu. C'est-à-dire, ça a été fondé à un moment où il y avait une tendance à chacun pense un peu ce qu'il veut, ce qui est perçu à l'époque comme étant des hérésies. Donc les gens choisissent, c'est ça que ça veut dire, hein, un élément de la parole de Dieu, et ils vont en faire l'objet ultime en oubliant un peu le reste. Et en fait, toujours l'enjeu dans l'Église, c'est d'être capable de tenir tout ensemble, c'est-à-dire tout l'enseignement de Dieu ensemble. Et on a naturellement, parce que c'est plus facile, tendance à dire « Ah, moi je prends ça et ça va être mon guide, mais il y a tout le reste ». Et en fait, résultat, Saint Dominique a fondé un ordre de prêcheurs, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'aller au milieu des gens et de parler aux gens et de leur dire bien oui, mais toute la doctrine, vous avez vu ça et c'est quelque chose qui est effectivement présent et vous avez pas tort, mais il y a tout ce qui va avec, vous savez, il y a tout le reste. Et donc il faut avoir une formation un peu générale en principe pour être capable de voir l'ensemble de la doctrine, pour pouvoir enseigner effectivement, pas forcément en donnant des conférences à l'université. Il y en a qui font ça, mais aussi quand vous discutez avec des jeunes dans la cour d'un lycée, si vous avez une bonne formation philosophique, métaphysique, etc., vous êtes capable de donner des éléments, y compris à partir d'éléments de choses très concrètes, de donner des éléments qui permettent de réfléchir. Moi, j'ai été enseignant de lycée avant d'être dominicain. Et dans ma formation, il y a des choses, je me suis dit, ah, si j'avais su ça quand j'étais prof, il y a des élèves, y compris des musulmans, qui m'ont posé des questions sur des trucs, j'aurais eu des éléments de réponse beaucoup plus riches que ce que j'avais à l'époque. Donc notre formation, qui est effectivement assez intellectuelle, assez poussée intellectuellement, a pour but de pouvoir réaliser ça.
Alors vous, une question plus personnelle, pourquoi vous avez choisi cet ordre lorsque vous avez reçu l'appel de Dieu ?
Eh bien, figurez-vous que j'ai connu... Alors en fait, moi je suis un... Je crois que c'est pour ma profession solennelle, on était 6 à faire profession solennelle, et dans le sermon, il y a un des... Le prédicateur, qui était le provincial des Dominicains de Toulouse à l'époque... il a ajouté « Alors, certains ont musardé en chemin, parce que je suis rentré assez tard dans l'ordre des prêcheurs. J'ai eu tout un parcours personnel religieux avant. Mais la vocation religieuse, pour moi, c'est depuis l'âge de 14 ans. Mais j'ai mis 30 ans à rentrer. Je suis rentré à 44 ans dans l'ordre des prêcheurs. J'ai mis 30 ans à vraiment trouver ma place. Et de fait, j'avais rencontré à 22 les dominicains à Jérusalem. Je travaillais comme coopérant dans une école chrétienne de la banlieue de Jérusalem. J'avais pas de lien particulier avec les frères, si ce n'est qu'étant historien, à la fin, on m'a donné la permission d'aller dans la bibliothèque de l'école biblique et d'aller dépouiller les ouvrages de sciences, d'histoire, d'archéologie, etc. Ce qui m'avait beaucoup plu, mais c'était une permission exceptionnelle. J'avais pas de lien particulier avec les frères, mais je les avais vus vivre et je m'étais dit, oh là là, c'est des infidélos enfermés chacun dans leur coin. Et moi, j'ai besoin d'une dimension communautaire et fraternelle. J'arriverai jamais à tenir là-dedans. Les frères m'ont dit, c'était pas totalement faux à l'époque où tu as fréquenté les frères, il y avait un petit peu de ça, chacun était dans son coin. Mais aussi, en fait, ça c'est, je l'ai découvert après, les dominicains n'exposent pas leur vie fraternelle. On la vit à l'intérieur du couvent sans forcément la montrer. Il y a beaucoup de communautés, notamment les communautés nouvelles, qui mettent beaucoup en avant la vie fraternelle, comment ils vivent, ils disent venez avec nous, etc. L'ordre dominicain, pas du tout. La vie fraternelle, on la vit. Elle se sent, hein, quand...
Pas besoin de que ce soit public, quand même.
Oui, et puis c'est pas le but. C'est-à-dire que on va être par derrière, on va sortir, aller prêcher, organiser des choses. Quand les gens viennent chez nous et qu'ils habitent avec nous, ils voient notre vie fraternelle, qu'il y a ces modes de fonctionnement particuliers. Mais, en revanche, notre vie fraternelle n'est pas publique. Donc moi, je me suis dit, j'ai besoin d'une vie fraternelle, je peux pas aller chez eux, parce que je n'avais pas vu cette dimension-là. Et c'est quand je l'ai découvert bien des années plus tard, j'ai vu passer... un grand de l'ordre des prêcheurs qui est Timothy Radcliffe, alors un grand prédicateur qui était maître de l'ordre. Donc moi je l'ai vu bien après qu'il soit maître de l'ordre. J'ai été bluffé parce que il prêchait une retraite. Et moi j'étais celui qui allumait les lumières, qui mettait les micros, enfin je faisais le personnel technique. Il avait un contact avec les gens qui était extraordinaire, hyper fraternel. Je me suis dit, mais il y a une vie fraternelle chez les Dominicains, ils ont un esprit fraternel. Donc je suis rentré et puis après ça a marché. Voilà. C'est comme ça que je suis rentré. Et donc, qu'est-ce qui m'y a amené d'abord ? Donc, c'est beaucoup lié à la liturgie. J'avais envie d'avoir une vie. Pour moi, c'est la vie fraternelle, la vie liturgique et la vie intellectuelle. C'est-à-dire que ce que j'étais, j'avais une formation d'historien, etc. Et pas considéré comme quelque chose dont il faut se débarrasser parce qu'il faut quitter le vieil homme. Non, non, ma dimension intellectuelle est admise dans l'ordre des prêcheurs comme étant une richesse personnelle. Et donc, voilà, je suis rentré là-dedans parce que ça me convenait bien. Et si vous me permettez, je fais mon petit
allez-y.
Truc. les jeunes orientaux, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, me disent toujours, mais vous, les latins, c'est-à-dire les catholiques romains, vous avez les franciscains, les dominicains, les carmes, les machins, les bénédictins, vous avez 50 000 ordres différents, alors que chez les orthodoxes, par exemple, il y a les moines. Et c'est terminé. Donc, pourquoi vous avez tellement de trucs différents, vous êtes tous très désunis, etc. Et ma réponse, et je pense qu'elle est profondément vraie, c'est qu'en fait, c'est un signe de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire il répond, il souhaite que nous soyons nous-mêmes dans la vie religieuse. C'est-à-dire, il ne cherche pas à prendre des gens et à la dépouiller, à les transformer pour en faire comme des marionnettes. Au contraire, tout dans la vie chrétienne, c'est tu deviens toi-même profondément en étant inspiré par l'Esprit-Saint qui te donne la possibilité de devenir profondément toi-même. Et donc, il y a des styles de communautés qui correspondent à des styles de caractère différents, et donc on peut rentrer dans une communauté qui nous convient.
Et qui font la richesse de l'Église
et
aussi.
Qui font aussi la richesse de l'Église, parce que les êtres humains font la richesse de l'Église.
Et c'est malheureusement la fin de cette émission. Merci beaucoup, frère Cyril Jalabert, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le prieur des Dominicains de Marseille, et vous pouvez retrouver cette émission en réécoute tout de suite sur rcf.fr. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur RCF.